Hello there.
Bonjour.
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 Vers l'infini et au-delà.
It's gonna be legendary.
Good to see you too, Pop.
Trois fois mille. Je compte même pas jusque-là.
This is your king, George III.
C'était fun.
Telle est la voix.
Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Comment ça va la team?
Ça va.
Alors, avant de commencer l'épisode, on doit vous faire une petite annonce. Donc comme vous l'aurez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, l'équipe d'Il était un plus a décidé de se séparer de Main Street Actu. C'est une décision qui est le fruit d'une longue réflexion et vient du fait que, tout simplement, on ne se sentait plus en phase avec l'organisation du groupe Main Street Actu. C'est une annonce qui, concrètement, change peu de choses pour vous, puisque le concept du podcast reste le même, on viendra toujours vous parler une fois par mois des contenus Disney+. Simplement, on aura désormais des réseaux sociaux et une organisation séparée. Voilà, on vous fait cette annonce parce que c'est un changement dans notre organisation, mais qui concrètement change peu de choses pour vous. Il n'y a pas là derrière de drama à créer en plus ou de commentaires à faire. Voilà, de notre part, il y a une volonté sincère de rester en bonne entente avec l'équipe de Main Street Actu. Simplement, on va s'organiser séparément. Donc voilà, on compte sur votre compréhension et surtout, on espère que vous allez nous suivre dans cette nouvelle ère pour le podcast.
Donc comme l'a dit Émilie, le concept va rester le même, mais on va modifier légèrement notre organisation. Donc vous retrouverez à chaque épisode une équipe fixe qui sera composée de Émilie, Charline et de moi-même. À savoir que Linda a décidé de faire une pause pour cette saison et on lui fait de gros bisous et on pense bien à elle. Alors, nous aurons à chaque fois un ou plusieurs chroniqueurs avec nous. Et ces chroniqueurs vont faire partie d'une petite équipe que nous sommes très heureuses d'avoir recrutée et qui vont nous rejoindre ponctuellement selon leur disponibilité et selon les sujets de nos épisodes.
Oui, puisque chacun a un petit peu ses spécialités, hein, comme nous on avait au tout début qu'on a expliqué. Donc on a des spécialistes Star Wars, Marvel ou classique Disney. Donc vous les découvrirez au fur et à mesure des épisodes. Mais en tout cas, voilà, pour ce premier épisode du Nouvel Air, on a une première invitée que moi j'ai eu la chance d'enregistrer plusieurs fois avec, et pour MSA et pour PopT, mais on l'avait jamais invitée chez iPlus, et il s'agit de Edwige. Bonjour.
Salut. Oui, là où Charline est, je m'incruste.
Ce qui me fait rire, c'est que quand Émilie a dit bonjour, t'es la seule à pas avoir dire bonjour en mode c'est la surprise, personne ne sait que je suis là.
Mais bien sûr, on introduit les invités après.
En tout cas, voilà, on te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Edwige, je suis sur le Discord de PopT et de MSA. Je suis fan Disney depuis très longtemps. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici, je crois.
Merci pour cette courte présentation. T'as de la chance qu'on te connaisse un peu mieux quand même.
Et de toute façon, nos auditeurs vont apprendre à la connaître.
Oui, voilà,
tout à fait. Exactement. Donc, c'est pas juste une invitée, voilà, c'est une chroniqueuse. Elle viendra à chaque fois qu'un sujet l'intéresse et va pouvoir démarrer l'épisode. Et puis, je vous expliquerai après le jingle ce petit nouveau changement de concept. Alors voilà, vous l'aurez vu, au titre de cet épisode, il s'agit d'un zapping, puisqu'on a décidé pour cette nouvelle saison de ne plus vous proposer de visionnage récent en début d'épisode, mais plutôt des épisodes zapping, où on vous présentera des contenus qui nous plaisent, qu'on vient de découvrir, qu'ils soient récents ou non. Alors, qui nous plaisent... Non, ça peut être aussi ceux qu'on n'a pas aimés, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, on alternera des épisodes thématiques comme on faisait d'habitude, mais sans visionnage récent au début, afin de se garder un peu plus de temps pour débattre des sujets, et puis des épisodes zapping comme ça, où on vous présentera plein de contenus, donc ça vous permettra de voir ce que vous avez envie de découvrir sur la plateforme, ou pas. Et on peut commencer par notre invitée chroniqueuse. Edwige, oui. Qu'as-tu vu
Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Alors, récemment, j'ai vu Motherland for Salem, donc la troisième saison, qui a clôturé en fait la série. Donc, c'est une série qui avait été diffusée sur Freeform en 2020 et qui a paru sur des puces que très récemment. Donc, la série est composée de seulement trois saisons. Donc, en fait, quand ils ont fini d'enregistrer la deuxième saison, ils ont annoncé qu'en fait la troisième saison serait la dernière. En fait, c'est une série qui parle d'un univers alternatif où les sorcières ont passé un pacte avec le gouvernement il y a 300 ans pour ne plus se faire persécuter, et en échange, en fait, elles servent d'armée pour le gouvernement américain. Donc, en fait, on nous présente trois jeunes femmes qui s'enrôlent pour l'académie militaire. Donc, en fait, c'est une série assez girl power, où les hommes ont vraiment un rôle secondaire, qui servent, entre guillemets, à la reproduction et à une augmentation des pouvoirs pour les femmes. Parce qu'en fait, on nous explique que quand la sorcière perd sa virginité et qu'elle a des rapports sexuels, en fait, ses pouvoirs sont vachement augmentés. Donc, il y a une des trois filles qui était vierge à son arrivée et qui développe ses pouvoirs quand elle a sa première relation amoureuse avec son petit ami. Donc, pour moi, c'est une bonne série. C'était un univers vachement intéressant et il y avait beaucoup de potentiel. Malheureusement, comme ils ont dû tout clôturer en seulement une saison de 10 épisodes, bah, ça se ressent. Le casting, il était plus trop motivé et le scénario, il tenait plus trop la route. Donc, la deuxième, pour moi, est la meilleure, la deuxième saison. La première saison est très bonne aussi, mais la troisième, je trouve qu'à la fin, c'est un peu bâclé. C'est dommage. Dommage qu'ils en aient fait ça, parce que franchement, il y avait vraiment du potentiel pour l'univers. Voilà.
Bah, ça me tente bien, moi.
Mais moi aussi, carrément.
Tu l'as bien vendu.
Il y a une scène d'orgie à un moment donné, un peu what the fuck.
Parents, soyez prévenus.
C'est pas plus trash que Game of Thrones, par exemple.
Non, on voit pratiquement rien.
Oh, alors.
C'est marrant, j'ai jamais entendu parler de cette série.
Mais oui, c'est pour ça que j'en avais jamais parlé. Alors j'ai dit, il faut que j'en parle pour le premier épisode, parce que j'adore cette série. Et bien sûr, il y a du LGBT dedans.
Ouais, je l'ai jamais vu passer non plus.
Je vais l'ajouter à ma liste.
Ça a l'air vachement bien, et pas parce que tu as dit qu'il y avait des histoires d'amour.
Ça t'aime bien, les histoires d'amour. Hein.
Ouais, il y a beaucoup d'histoires d'amour, en fait. Il y a beaucoup d'histoires d'amour. Il y en a une des trois filles, en fait, elle n'est pas trop histoire d'amour, elle est plutôt sexe, parce qu'elle est avide de pouvoir, et du coup, elle couche tout le temps avec plein de gars différents pour avoir plus de puissance, en fait.
C'est marrant, ce côté où comment dire ? Où avant, le sexe et la femme, c'était vraiment... plus une femme couche avec des mecs, plus son image est dégradée, plus elle est assouvie, entre guillemets. Et là, du coup, il retourne la situation
j'adore. T'as des femmes, en fait, vachement hautes au niveau du pouvoir dans l'armée et tout ça. Elles ont, par exemple, cinq maris, en fait. Et c'est tout à fait normal dans ce monde-là. Et c'est vachement... on sent la sororité, au fait, et tout ce qui est au niveau des femmes, comment elles s'entraident, au fait.
Ouais, c'est un peu comme...
C'est une réalisatrice femme, je suppose.
Oui.
C'est un peu comme dans ce peuple... Je sais plus c'est quel peuple où c'est les femmes qui ont le pouvoir.
Les Amazones.
Ouais. Je sais pas. Non, mais enfin, récemment, je veux dire.
Ah.
Dans notre civilisation, il y a un peuple comme ça où c'est les femmes qui ont le pouvoir.
Je pense qu'il y en a pas mal, parce qu'il me semble que j'ai visité le musée ethnographique là au Vietnam, et il y avait des tribus où c'était les femmes qui... C'était un système matriarcal.
Ouais.
Mais je pense qu'il doit y avoir des ethnies comme ça un peu partout.
Bon, par contre, mauvaise nouvelle, ce n'est pas sur le Disney Plus belge.
Non.
Vous l'avez peut-être sur Prime, parce qu'il était sur Prime avant d'arriver sur D+.
Je viens de chercher, je vais regarder.
Eh, pour une fois que c'est l'inverse. Quoique non, je dis ça, mais récemment, il y a plusieurs...
Il met sur Phaser, notamment. J'ai les nerfs, j'arrête pas de regarder tous les jours. Je regarde si la saison 2 est sortie. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas sortie. Je comprends pas.
Ouais, peut-être qu'ils attendent que tous les épisodes soient sortis.
Peut-être. Ah oui, elle est sur Prime, effectivement. Mais il n'y a que deux saisons.
Ah.
Ah, il faudra que vous attendiez pour la dernière. Bon, bah, pour vous rendre justice, on va peut-être enchaîner avec une série que vous, vous avez sur votre Disney Plus belge et que nous, on n'a pas en France, malheureusement, puisque ça passe encore à la télévision. Et il s'agit de, Emily...
Fresh off the boat.
Yeah.
Ou Bienvenue chez les Wang en français. Alors, j'en ai déjà parlé ici, j'en ai déjà parlé dans un article, mais je vais en reparler. Pourquoi ? Parce que... Il y a une semaine, on était en train de s'appeler, de préparer cet épisode. J'ai ouvert Disney Plus et j'ai fait un bruit comme ah quelque chose comme ça.
C'était un peu plus dans les aigus.
Ouais, c'était plus fort que
oui,
ça.
Oui, un peu dans les aigus. Parce que j'ai découvert que cette série était enfin disponible sur le Disney Plus belge. Ça fait des années. Je crois que depuis la sortie de Disney Plus, je la demande. Parce qu'on l'a regardée avant sur Netflix. On a regardé les deux premières saisons en famille. Et puis la série a disparu du catalogue et j'avais les nerfs. Et comme je savais que c'était ABC, je me suis dit ça peut arriver sur Disney Plus. Ce jour est arrivé. Jouer au bois, raisonner musette et tout ça. Donc.
C'est quoi cette expression?
Mais tu connais pas la chanson?
C'est comme
il
dans la
est
chanson
né
de
le divin enfant.
Jouer au bois, raisonner musette,
ah,
tu vois.
C'est ça. Et ok, je sais pas.
Moi j'ai compris, Émilie.
Oh, c'est gentil.
C'est un truc belge encore, ça.
Ouais.
Même pas, c'est connu. Enfin bon, donc, Fresh off the Boat ou Bienvenue chez les Wang, série diffusée sur ABC et maintenant disponible sur le Disney Plus belge, également diffusée à la télé française. C'est une sitcom en 4 saisons qui parle de la famille Wang, donc c'est une famille qui vit aux États-Unis d'origine taïwanaise, qui vivait dans le quartier chinois de Washington et qui déménage en fait dans la banlieue d'Orlando. Donc qui arrive dans la typique banlieue bourgeoise américaine où ils sont en fait la seule famille asiatique. C'est très très drôle, j'aime bien dire que c'est l'équivalent de Blackish mais pour les asiatiques, tu vois. Et c'est oui nous on a regardé ça, donc ma famille est à moitié d'origine asiatique, on a regardé ça en famille et on se marre à chaque fois parce qu'il y a énormément de références qui sont très très justes, mais allez, je pense que peu importe les origines, c'est une série qui est vraiment drôle, les personnages sont super attachants. On a le père qui a décidé d'ouvrir son restaurant, mais qui veut pas faire un restaurant chinois, tu vois, pour pas être dans les clichés, donc il décide d'ouvrir un ranch, vraiment un Buffalo Grill, quoi, en fait. Hein. Il décide d'ouvrir un restaurant type Buffalo Grill, alors il y a toutes ces aventures au restaurant. Dans les enfants, on suit l'aîné, donc c'est Eddie, qui a 11-12 ans. Il faut savoir que la série est tirée de la vie du vrai Eddie Wang, qui est, je pense qu'il est rappeur et cuisinier, je vais vérifier un truc, mais il a une vie un peu improbable. Attends, je vais aller vérifier, je vais faire du fact-checking en direct. Voilà, est un auteur et restaurateur américain. Donc non, il n'est pas rappeur, c'est juste qu'il s'habille comme un rappeur. Ok, donc c'est un auteur et cuisinier américain, du coup. Et la série est inspirée de sa vie et de sa famille. Donc on voit le petit Eddie, 11-12 ans, qui grandit donc dans les années 90. Et ses deux petits frères qui sont tout mignons. C'est super chouette, mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils abordent souvent des sujets qui touchent. Et des sujets un peu plus complexes derrière juste la question du racisme et de « Oh, on est les seuls asiatiques dans une banlieue de blancs ». Je pense par exemple à un épisode que j'ai trouvé super intelligent, c'est le papa qui passe à la télé locale pour faire la promotion de son restaurant. Et en fait, il passe plusieurs fois à la télé, à chaque fois sa femme lui reproche « Oui, mais là t'étais trop drôle, là t'étais trop sérieux, là t'étais trop ci, t'étais pas assez ça ». Et en fait, le problème derrière, c'est qu'elle dit « Oui, mais on a tellement peu de chance, nous, en tant qu'asiatiques, d'être représentés dans les médias, que quand tu le fais, il faut le faire bien ». Et donc la première fois, il y va, il fait des blagues, des imitations, elle lui reproche, il dit « Oh, tu vas voir, on va passer pour des clowns maintenant ». Puis il y repasse, il fait trop sérieux, il dit oh, « Mais tu vas voir, ils vont trouver qu'on est ennuyeux ». Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper intelligent. T'as aussi l'épisode où les gamins vont à l'école avec leur boîte à tartines, avec des repas typiquement chinois, et alors forcément les gamins commencent à se moquer. « Ah, oh, c'est quoi son truc? Ça pue? C'est quoi ça ?» Enfin voilà. Je vais pas vous faire un résumé de tous les épisodes, mais j'ai trouvé, et c'est vraiment, j'aime bien faire le comparatif à Blackish parce que c'est un peu plus connu, c'est un super bon mélange entre une sitcom qui est vraiment drôle, et je pense bah, ça fera rire forcément les familles asiatiques, mais pas que, et le fait d'aborder des sujets un peu plus complexes sur le racisme, sur l'identité raciale, etc. Donc je vous la conseille vivement. J'ai un peu du mal avec le doublage français. Nous, en famille, on le regarde en français parce que ma maman aime pas regarder des trucs en anglais sous-titré, mais si vous avez le choix, regardez en anglais sous-titré. Je trouve qu'on perd beaucoup de l'humour avec le doublage français.
Bah, rien que le titre, hein, entre Fresh off the Boat et Bienvenue chez les Wang, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, il y a une grosse différence quand même.
Et puis les acteurs sont excellents, j'ai un gros coup de cœur sur les enfants parce que je trouve qu'ils ont vraiment super bien casté, mais donc les parents sont joués par Constance Wu qui avait le rôle principal dans Crazy Rich Asians, et Randall Park, ceux qui regardent Marvel le connaissent, c'est l'agent Wu. Et les deux sont excellents, ils sont super drôles, et je trouve qu'avec le doublage français on perd vraiment l'intention de ce qu'ils ont voulu faire, ici c'est fort marquant. Donc voilà, regardez-le en anglais, en français, en ce que vous voulez, mais regardez-le, c'est vraiment bien.
Ouais, moi j'adore. J'ai hâte qu'il arrive en France, parce que bah, forcément, à la télé, tu suis pas dans l'ordre, quoi. C'est des épisodes par-ci, par-là. Mais avec Thibaut, les épisodes qu'on a vus, on aimait beaucoup à chaque fois, donc j'espère que ça va venir.
On va rester dans le thème de l'Asie avec le prochain contenu de Charlie.
Pourquoi t'es mort de rire ?
Un drama japonais, je sais pas, parce que cette transition est pourrie. J'ai pas trouvé mieux.
J'ai cru que t'étais en train de juger mon
Non,
mon
je juge pas, c'est juste que je me dis ma transition est nulle, mais à l'aise, t'as un drama japonais, j'ai pas trouvé mieux, vas-y.
Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, alors moi j'ai vu du coup Yakuza Lover, et rien qu'au trip, vous avez compris. Non mais voilà, je
Là,
savais.
Là je te juge.
Je savais que vous alliez vous moquer. Thibaut s'est beaucoup moqué aussi. Quand je lui ai dit le titre, je lui ai dit c'est un manga. Parce que de base, c'est un manga. Il n'est pas dispo en français. J'ai dit il n'est pas dispo en français. Il m'a regardé, il m'a fait mais quel dommage. Bah oui, c'est un dommage. Parce que, en fait, à la fin de chaque épisode, ils mettent quelques planches du manga. Donc en japonais, parce qu'il n'existe qu'en japonais et en anglais. Et je pense que le manga est mieux que le drama. Donc oui, c'est dommage. Non, alors, de quoi ça parle ? Eh bien, d'une histoire d'amour entre un yakuza et une étudiante.
C'est quoi un yakuza ?
C'est la mafia japonaise, en gros. C'est ceux qui sont tatoués dans le... partout sur le
okay,
corps.
Ok, d'accord.
Très sexy, d'ailleurs.
Si Johan avait été là, il m'aurait dit ce que c'est qu'un yakuza, parce que lui, il adore la culture japonaise, mais j'avoue que moi, les mangas et tout ça, n'y connais rien.
Et bah ouais, c'est l'équivalent de la mafia japonaise.
Ok.
Et du coup...
Ouais, c'est un peu un 365 d'Eni à la sauce drama très,
ouais.
Très édulcoré.
Exactement, exactement. T'as tout compris. Et du coup, la relation, vous l'aurez compris, est quand même hyper toxique. Puisque c'est marrant parce qu'au début, t'as l'impression... En fait, c'est une fille, justement, une étudiante qui est vachement... forte, qui se laisse pas faire, qui se défend, qui dit tout ce qu'elle pense, qui est pas dans la retenue, contrairement à un moment elle en parle, c'est drôle puisqu'elle dit c'est vraiment gnangnan quand elle sort ça, je vais tout faire pour devenir une fille bien pour toi et donc du coup je vais être réservée en public. Et donc elle a hyper faim et elle montre pas qu'elle a faim, t'es là mais vraiment, mais bon.
Oh, ça c'est... va l'énerver.
Voilà. Et du coup, tu vois, elle, au contraire, elle est très expansive et tout ça. Et elle fait beaucoup de sport et tout. Et en fait, avec ce yakuza qui est plus âgé que qu'elle, et
évidemment,
qui a une influence,
de toute façon,
tu vois,
il devait être plus âgé qu'elle.
Bien sûr. Puis il lui fait peur, hein. Franchement, clairement, elle le dit à plusieurs moments, qu'elle a quand même peur. Enfin, pas trop, un peu au début et à la fin aussi, elle le dit, hein, qu'elle a peur de lui. Mais donc, elle a cette espèce d'emprise sur elle où, du coup, elle se retrouve vraiment comme. Comme la femme soumise qui dit amen à tout, qui lui sourit, c'est hyper bizarre, vraiment hyper bizarre. À côté de ça, tu te laisses prendre au truc en vrai, parce que il y a tellement de passages où tu vois, elle est mise en danger, il va la sauver et tout, il va la défendre, il s'énerve parce qu'il est contre d'autres mafias qui sont pas, qui veulent s'en prendre à elle et tout ça, que tu te fais quand même prendre au jeu. Bon, ça aussi parce que j'ai binge-watché tous les épisodes en une fois. Il y a 9 épisodes de 25 minutes chacun. Donc oui, je suis restée quasiment 5 heures devant ma télé. Et en vrai, à la fin du truc, tu te dis... Ok, moi, en tant qu'adulte, ça passe parce que je sais que c'est une série, que c'est un manga vraiment un peu gnangnan qui a été adapté de manière chelou. Mais je suis assez grande pour juger et de me dire là, ça dépasse les bornes, là, c'est toxique et tout. J'espère que... qu'il n'y a pas des ados qui vont regarder, quoi. C'est ça que je me suis dit en regardant, parce que ça donne quand même une super mauvaise image des relations, tout comme 365 jours, là, je m'étais dit la même chose. Je m'étais dit, ça prône la culture du viol à fond, et autant toi, en tant qu'adulte, tu peux faire la part des choses, autant là, non. Après, je pense que c'est pas spécialement pour les ados, parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Alors, on voit pas grand-chose.
Ah ouais, dans un drama japonais, il y a des scènes de sexe ?
Ouais, ça m'a perturbée. Ce n'est pas un vrai drama japonais, ouais. Comme on l'entend, tu vois, mais... Si, mais du coup, ils couchent ensemble dès le début et elle est très crue dans ses phrases. J'ai envie que tu rentres en moi. Enfin, vraiment, t'es là. Dis donc.
Parents, vous êtes prévenus, encore une fois.
Ouais. Non. Donc, ne le laissez pas vos ados regarder ça, quoi. Mais c'est très marrant parce qu'effectivement, c'est quand même tourné en mode gros drama, dans le sens où à chaque fois qu'ils couchent ensemble, on voit plus la chambre. En fait, ils sont juste sur des draps blancs en satin et tout le reste autour, il y a des fleurs de cerisier, il y a du noir, ils sont ailleurs. Ils sont dans un monde ailleurs et à chaque fois qu'ils passent au lit, ça change. Mais voilà, donc on va pas dire que je le recommande.
si vous vous sentez un petit peu seule le soir.
Mais oui, voilà. En vrai, oui. La tête d'Émilie.
Alors, ce podcast est à écouter après 22h, d'accord ?
Voilà. Non, mais en vrai, je sais pas quoi dire de plus. J'ai pas passé un
mais c'est bon, c'est bon, j'avais bien compris. Hein,
Il y a peut-être rien de plus à dire, en fait.
Rien que quand tu as mentionné 365 DNI, on a compris. Hein, bon.
Alors, faut savoir que, tu vois, ce film, j'ai même pas été jusqu'au bout parce que j'ai trouvé horrible. Alors que là, je sais pas pourquoi, c'était happé par le truc, quand même, tu vois.
Enfin, ça devait être les fleurs de cerisier.
Ça doit être ça. Bon, pour rester sur une histoire d'amour mais qui n'a rien à voir, Clem, tu veux nous parler d'un de tes visionnages ?
Oui, alors effectivement, je vais vous parler d'un de mes visionnages qui n'a... Enfin, si, qui parle... Alors j'ai deux contenus où ça parle d'histoire d'amour, mais je vais parler d'abord du premier qui est Anatomie d'un divorce, ou bien Fleshman is in trouble, comme on dit chez les anglo-saxons. Pardon. Enfin, comme on dit chez les anglo-saxons, comme on dit mal chez Clémence, mais qu'on dit aussi chez les anglo-saxons. Bref.
Alors, on peut quand même spoiler, on a une chroniqueuse qui va arriver, qui parle hyper bien anglais, et je pense que dans les épisodes où elle sera là, on a intérêt à s'entraîner avant, sinon elle va nous allumer.
Non, bah, Émilie, ça va, hein, elle parle très bien anglais, hein, ce qui n'est pas mon cas. Bref, donc... C'est un contenu qui est sorti fin 2022 sur Disney+, avec une belle flopée d'acteurs, hein, Jesse Eisenberg, Adam Brody, Claire Danes et Lizzie Kaplan, et qui est adapté d'un livre du même nom. Alors, en gros, ça raconte l'histoire du couple Fleshman, qui décide de divorcer après 15 ans d'un mariage qui était, on peut le dire, un peu en dents de scie. Donc Toby Fleshman, quarantenaire fraîchement célibataire, va décider de s'inscrire sur les applis de rencontre pour donner un nouveau souffle à sa vie. Mais c'est sans compter sur sa femme Rachel qui dépose un soir les enfants pendant qu'il est en train de dormir. Elle dépose les enfants dans leur appartement, enfin dans son appartement à lui, et elle disparaît sans donner plus d'informations. Donc pendant plusieurs jours, elle ne répond pas au téléphone, il l'appelle plusieurs fois, il lui envoie des messages, il la cherche, elle n'est pas chez elle, il ne comprend pas où elle est. Il pense même qu'elle est morte, mais vous allez voir que dans la série, j'en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir tout un mystère autour de ça. Alors moi j'ai trouvé que les deux premiers épisodes, ils étaient vraiment vraiment super bien fichus. Et malgré le fait que la fin est quand même un peu moins accrocheuse, mais comme les premiers épisodes sont tellement prenants et tellement bien fichus, bien montés, etc., ben on peut pas faire autrement que d'aller à la fin de la série, quoi. Donc les acteurs, ils sont vraiment excellents, et alors mention spéciale à Claire Danes, qui est, mais comme toujours, hein, parce qu'à chaque fois qu'on la voit dans quelque chose, elle est incroyable, cette fille.
J'adore cette actrice.
De rien comme Lente, franchement, cette fille incroyable, mais elle est encore une fois vraiment géniale. Elle développe un jeu, une palette d'émotions qui est vraiment très fouillée pour une série de, je crois que c'est 8 ou 10 épisodes, enfin c'est très court, quoi. Voilà, moi j'ai trouvé exceptionnel. Alors il y a une réalisation qui est, moi je trouve, plutôt efficace, avec des plans et des parties pris qui sont astucieux et qui rendent donc la série prenante, évidemment. Notamment des épisodes de vie, donc, mais qui sont vus de chaque point de vue, soit du mari, soit d'elle-même. Et donc, en fonction du personnage qui raconte l'histoire, le point de vue est légèrement différent, quoi. La façon de dire une phrase, elle va peut-être être dite de manière désagréable dans la tête du mec, mais dans la tête de la femme, c'est pas du tout comme ça qu'elle le dit. Et donc, c'est intéressant de voir comme ça les deux points de vue et un peu mettre ça en comparaison, quoi. Et alors, bon, c'est pas une série qui est sans reproche, parce qu'il y a quand même certains dialogues vers la fin qui sont un peu plats, un peu redondants, un peu... t'en as marre, quoi, t'as envie qu'il y ait moins de dialogues et plus de qu'on sache plus ce qui se passe dans l'histoire, quoi. Et puis, je trouve que parfois, les plans sont tellement bien filmés, avec des ralentis, des couleurs, et il y a un vrai parti pris dans la réalisation, qu'on dirait un peu que la série se la raconte un peu, quoi. Et donc, vous voyez ce que je veux dire dans le genre de série où, on dirait qu'elle se la raconte. Oh, regardez les choses très importantes qu'on va dire sur les relations mari et femme, sur le divorce, sur les quarantenaires, sur les applis de rencontre. Et donc, Voilà, ça, je dirais que c'est un peu le reproche que je vais lui faire. Mais je trouve qu'elle est suffisamment bien faite pour qu'elle soit à voir. Moi, je la conseille de la voir parce que les acteurs jouent bien, c'est bien fait, ça se passe à New York.
Ah, ça y est, tu m'as.
Voilà. Non, franchement, et c'est bien de voir Jesse Eisenberg dans un autre registre parce que souvent, on le voit un peu comme le mec un peu geek, avec une personnalité un peu « je me la pète ». Et là, c'est totalement différent. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le voir là-dedans. Voilà.
Ouais, ça me tente bien.
Non, franchement, c'était sympa. Et Adam Brody, quand même. Hein.
Oui, bah oui, voilà.
Newport Beach.
Ouais.
California. Pardon.
Ça y est, Clem a chanté, on peut clôturer l'épisode.
Alors, moi, je ne sais pas qui je vais inviter à parler après moi, mais j'ai envie de dire Edwige, alors vas-y Edwige.
Oh, le zéro effort sur la transition.
T'as, en plus, t'as envie de dire Edwige juste parce que pour une fois, tu le prononces
bien. Ouais, t'as
vu ça. je vais vous parler de la série animée Loose Houseville. Donc, c'est une série d'animation diffusée sur Disney Channel depuis 2020. Et qui est arrivé sur D+, une fois que la diffusion avait été terminée. Donc c'est une série qui a été créée par Dana Terras, qui est la réalisatrice du reboot de la bande à Picsou, entre autres. Elle met en avant une jeune fille nommée Luz, qui découvre un monde magique et de mystère. La série est connue pour son animation de qualité et sa capacité à donner envie aux enfants et aux adultes de la regarder. Donc, c'est une série d'animation. Bon, c'est vrai que c'est plus tourné pour les enfants, mais en tant qu'adulte, on peut la regarder sans souci. Donc, il y a une bonne représentation de la communauté LGBT dedans. Il y a le premier personnage principal d'une série pour enfants LGBT, le premier personnage bisexuel, la première utilisation du pronom « Yel » pour un personnage non-binaire. C'est une série aussi qui a été annulée par Disney. La dernière saison qui est encore en cours de diffusion et que je n'ai pas encore vue, il n'y a que 3 épisodes dedans. Elle a été annulée par D+ parce que la série, je mets entre guillemets, ne correspond pas à la marque Disney. Donc j'attends de voir les 3 derniers épisodes, mais les 3 derniers épisodes de la série, mais les 2 premières saisons étaient très bonnes et ça allait vraiment crescendo au niveau de la qualité d'épisode en épisode, quoi.
C'est fou parce que j'en ai jamais entendu parler alors que pourtant je regardais encore bien tout ce qui sortait sur Disney Channel. Maintenant que t'en parlais, je suis allée chercher des images et je me rappelle effectivement d'avoir vu passer la première héroïne lesbienne dans une série d'animation.
Ouais, le personnage principal est bisexuel et en fait une romance en fait qui part d'ennemis à amour vachement passionnant dedans. Et puis il y a aussi les parents d'un de ses copains qui où il a 2 papas, donc c'est vachement inclusif, en fait.
Mais dès que c'est inclusif, c'est annulé, quoi.
Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont mis sous le tapis, parce que je n'ai jamais vu ce truc, quoi. Je regarde les images, ça a l'air tout mignon, chouette, mais ça ne me dit rien.
Moi, je vais faire découvrir des choses, hein.
Mais oui,
c'est clair.
Ouais, franchement, génial.
C'est clairement. Mais c'est comme, vous avez entendu la polémique sur la série Netflix avec le bison, là ?
Oui.
Qui est donc une série pour enfants avec un bison non binaire. Un bison, hein, on parle bien d'un...
Oui, j'avoue que dit comme ça, c'est drôle.
Mais oui, non, mais et puis qu'est-ce qu'on s'en fout, hein. Et en fait, tes parents sont montés au créneau, comme quoi ça allait traumatiser les enfants, et du coup, ils ont annulé la série.
Mais tu le trouves sur le Disney Plus belge Non. Émilie, eh ben, il n'y est pas non plus.
Je suis en train de me dire, elle n'est pas
sur
le
Disney Plus belge. Oh, excusez-moi.
En fait, vous, tout ce qui est un peu inclusif, girl power et tout, il n'y a pas. Non, quoi.
Pourtant, je comprends. Je ne comprends pas parce que le mariage homosexuel est arrivé chez nous bien avant d'arriver en France. Donc, je ne comprends pas.
La PMA aussi, d'ailleurs.
On est un des pays les plus en avance sur ce sujet, après la Hollande. Donc, enfin, les Pays-Bas. Donc.
Mais on a Peppa Pig. Parce que ça fait des jours que dès que j'ouvre mon Disney+, il me propose Peppa Pig. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne correspond pas trop à mes visionnages récents.
Nous, c'est sur Netflix, hein.
Ah bah maintenant il est sur Disney+.
Oh mon dieu, j'en fais des cauchemars de ce truc.
Non,
ma fiole regardait que ça quand elle était petite. Peppa Pig. Oh mon dieu.
Bah, vous savez ce que vous n'avez pas non plus sur Disney+, et que nous on n'a pas encore, mais certainement bientôt, c'est le dernier Ant-Man et la Guêpe.
Ah,
pour faire une belle transition, n'est-ce pas, n'est-ce
effectivement
pas. Bon, du coup j'ai décidé d'en parler, donc Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Il est sorti en février au cinéma, on l'aura sans doute sur Disney+ dans quelques mois en Belgique, cœur sur vous les Français.
Je préfère ne pas avoir Ant-Man et la Guêpe et l'avoir les séries d'Edwige.
Merci.
On est comme ça. Vu la qualité.
Tu fais une petite entorse au podcast parce que je sais qu'il n'est pas encore sur Disney+, je l'ai vu au cinéma, mais j'avais besoin d'en parler. Parce que je suis sortie fâchée de la salle de cinéma d'avoir payé pour une telle bouse. Et ça m'est quand même pas arrivé souvent dans ma vie, donc j'avais besoin d'extérioriser ça. Je sais que ça divise, je sais qu'on va pas être d'accord, mais je lance le truc. Non, vraiment, Ant-Man et la Guêpe, pour vous donner le contexte, j'étais fatiguée de ma semaine, mais d'habitude je m'endors pas devant un film. J'ai dormi pendant une demi-heure d'Ant-Man et la Guêpe. Je me suis réveillée, je me suis retournée vers la droite, il y avait mon frère qui me regardait avec des yeux de chien battu en me disant « j'ai envie de partir ». C'était long. C'était très très long. J'ai essayé de comprendre pourquoi, mais il y avait un mélange de trucs. Déjà, la bouillie numérique d'effets spéciaux pendant une heure et demie, c'était compliqué, mais encore que si l'histoire était bien, j'aurais pu accrocher. Je crois que ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'il y avait zéro évolution des personnages. Pour moi, dans un film, au début et à la fin, allez, je veux dire, entre le début et la fin, le personnage a appris quelque chose, il a évolué, il s'est passé un truc dans sa vie. Là, l'illustration même de ça, c'est que à la fin, ils reprennent la scène de début. Et donc, enfin, en fait, tu arrives à la fin du film et tu te dis, bah, il aurait pu ne rien se passer dans leur vie, c'était pareil, quoi. J'ai l'impression que toute la famille de Scott Lang, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de réflexion. Ça introduit vaguement le prochain grand méchant, ça on le sait tous, je pense que je spoil pas grand-chose. Le prochain grand méchant après Thanos, moi je l'ai trouvé très décevant. L'acteur est bon, l'acteur est vraiment très bon, mais ça suffit pas à sauver un scénario de chiottes. Donc, ouais, je sais pas. En fait, j'ai passé une heure et demie, deux heures devant des boum-boum explosions partout, une espèce de bouillie numérique avec pas vraiment de scénario derrière. J'ai trouvé que l'humour, qui est quand même dans un Ant-Man, c'est censé... c'est un élément important. C'était pas au niveau... En fait, on a eu le coup... C'est un jeu que mon frère aime bien faire devant les films, parce qu'on regarde tous les Marvel ensemble, c'est dire « Ouais, tu vas voir, là, il va se passer ça. » Mais là, il le mettait dans le mille à chaque fois, quoi. Tu voyais un personnage « Ah, tu vas voir, ils vont faire une blague sur ça. » « Bah oui, effectivement. » « Ah, tu vas voir, il va se passer ça, et puis l'autre va répondre ça. » « Bah oui, effectivement. » Tout était prévisible dans les blagues. Je suis vraiment ressortie fâchée d'avoir perdu deux heures de ma vie et environ 10 euros pour ça. Voilà, j'avais besoin d'en parler. Et surtout, ce qui m'embête là derrière, mais je sais que t'as bien aimé, j'ai vu que ça s'était fort divisé, c'est-à-dire soit les gens étaient vraiment contents en se disant ouais, ça amorce la phase suivante, soit les gens étaient dégoûtés. Je fais partie des dégoûtés. Et ce qui me fait peur là-dedans, c'est que si ça amorce la suite du MCU, bah en fait, j'ai plus envie d'aller les voir au cinéma, quoi. Et c'est triste parce que, enfin, comme je disais, moi, c'est un des trucs qu'on partage avec mon petit frère, c'est d'aller voir les Marvel ensemble au cinéma. Et ben tous les deux, on est ressortis dégoûtés en disant bah tu vois, le prochain, on a même pas envie d'aller le voir, quoi. Si c'est comme ça, et ça fait quelques films qu'on est déçus à une ou deux exceptions près, oh bah si c'est comme ça, on va arrêter d'aller les voir, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis pas non plus emballée en mode wow, il était extraordinaire, c'est un Endgame, ou c'est un Civil War, ou tu vois, ou c'est un film, voilà, dans les débuts. Mais en fait, j'ai trouvé que pour une fois, et je vais un peu redire ce que j'ai dit dans le dernier épisode de Pop T qui est sorti aujourd'hui. Oui, c'est
le Charlie inverse du podcast, en fait.
Et c'est ça. Mais en fait, j'ai trouvé que pour une fois, par rapport aux autres Marvel de cette phase-là, dont je sais plus les numéros, je suis perdue, il y avait un peu un scénario.
C'est le premier, hein,
peut-être.
De la phase.
Possible.
Ah ouais.
De la phase 6, hein.
Non, la phase 5.
Ah mais ouais. Non, la phase 5, elle est déjà enclenchée depuis après Endgame, on est d'accord. Attends, on va... Fact-checking en direct.
Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Il y a des phases dans les Marvel.
Ouais. Mais ils ont regroupé, mais un peu bizarrement, parce que dans certaines phases, il ne se passe rien.
C'est ridicule.
Ah non, non, pardon, c'est bien la phase 5 qui commence avec Ant-Man et la guêpe Quantumania.
Ok. Bon, bah, du coup, par rapport aux ceux de la phase 4, je trouve que pour une fois, il y avait un peu un scénario qui... Oui, je vois que vous n'êtes pas d'accord.
Non, mais tu compares la phase 4, quoi. Mais là, c'était...
Déjà, il y avait un scénario, non?
Si, il y avait quand même, globalement, il se passait quelque chose. Je suis désolée, mais quand tu compares avec... Alors, j'ai beaucoup aimé Eternals, parce que j'ai beaucoup aimé les... Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. J'ai aimé les personnages, mais il y avait pas... il se passait rien. Franchement, c'était juste une présentation des personnages. Regardez, voilà, on a un tel, on a un tel, on a un tel, on a un tel. C'était pas du tout relié au MCU, et il se passe que dalle. À part dans la scène post-générique où tu dis « Ah, peut-être qu'il va se passer un truc ». Et encore, une des deux scènes, la deuxième, j'avais rien à faire. Tout le monde a crié dans le cinéma, j'ai même pas compris ce qui se passait. Mais là, je trouvais que au moins il y avait un truc, tu vois, il se passait quelque chose, ils allaient dans le truc quantique, ils faisaient ci, enfin, c'était un schéma narratif du plus simple possible, mais au moins ça tenait la route et il n'y avait pas d'énormes incohérences comme dans Doctor Strange avec on court, mais on l'entend plus courir derrière nous, alors on s'arrête comme des débiles et on regarde et on attend. Il n'y avait pas d'autant grosse facilité scénaristique avec du fanservice à fond qui au final sert à rien dans l'intrigue mais qui est juste pour que les fans soient contents. Ils ont essayé de prendre une prise de risque et il y avait quelque chose qui se passait. Voilà, alors oui, il y a des personnages que j'ai pas du tout aimés. La mère, franchement, point noir, je l'ai trouvée incohérente. Je trouvais que Michelle Pfeiffer jouait pas très bien. Je comprenais pas pourquoi elle racontait pas sa life et qu'elle gardait tous ses secrets. J'ai envie de lui dire, mais secoue-toi, dis quelque chose, tu me saoules. Oui, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Globalement, visuellement, moi, j'ai bien aimé cet univers, même si c'était pas hyper exploité et que ça aurait pu être plus joli. Mais j'ai quand même passé un bon moment devant. Moi, l'humour, même si c'était plus prévisible, ça m'a quand même fait rire. Et j'ai trouvé que, ouais, en fait, par rapport au précédent de Marvel, c'était un niveau un peu au-dessus. Alors, comme je disais dans Pop T, s'il l'avait sorti direct après Endgame, j'aurais peut-être dit c'est complètement nul ou c'est très moyen, voire moyen, quoi. Mais là, par rapport à ce qu'ils nous ont fait avant, je pouvais que être contente, quoi, devant.
Mais je suis pas d'accord sur les incohérences. Pour moi, j'ai quand même trouvé qu'il y en avait des grosses. Et une, et encore une fois, c'était mon frère qui l'a relevé à la sortie. Et je me dis, mais oui, il a raison. Il me fait, oui, mais tu te rends compte, c'est quand même dingue. Dans les Ant-Man précédents, on nous expliquait que donc, sa mère s'était perdue dans le royaume quantique, que c'était très compliqué d'y aller, compliqué d'en revenir. Ils se font des combinaisons spéciales et tout. Et il dit, et tu te rends compte, la gamine, là, elle va dans le royaume quantique en t-shirt comme ça. Et il se passe rien. On dirait que maintenant, on y entre et on y sort de manière super facile. Et puis alors, on découvre qu'il y a tout un univers. Il y a des moments dans le film, je me suis dit, ils se foutent de notre gueule, là, ils font du Star Wars. Quand t'arrives
ouais,
dans...
ça m'a plu.
Ben, quand t'arrives dans telle ou telle ville où tu commences à voir des petits extraterrestres, je te jure, ils arrivent dans un bar avec des extraterrestres, ça y est, c'est la cantina, quoi. Ça, ouais. C'est quoi ce truc Oui, mais moi, ça m'a énervée, parce que je regarde pas un Star Wars, je suis venue voir un Marvel, tu vois. Non, vraiment, ce film m'a énervée, en fait, parce que j'avais ce sentiment que le réalisateur te prend pour des jambons, quoi, tu vois. Qu'ils se disent, oh, de toute façon, c'est bon, on leur met des gros boum-boum, un peu d'humour à la Marvel, et tiens, on va mettre MODOK dans le tas, ça va les faire rire, et c'est bon, ils seront contents, tu vois. Je sens pas la prise de risque dont tu parles, je sens pas la recherche, et je sens pas de l'envie, en fait, de faire un bon film. Pour moi, c'était juste, ah, on doit sortir un Marvel, bon bah viens, on va mettre telle blague, viens, on va mettre une chier d'effets spéciaux, et viens, on va mettre tel personnage, et c'est bon, ils seront contents.
Bah, moi, tu vois, mais d'un côté, je me dis, ils ont repris les codes Marvel, alors que moi, j'ai eu cette impression d'être prise pour un jambon avec Doctor Strange, et même avec Spider-Man, même si j'ai bien aimé Spider-Man. Avec vraiment ce style du « on va donner au public exactement ce qu'il veut, sans faire non plus trop d'efforts ». Là, ils ont essayé, peut-être que ça n'a pas marché, mais de repartir sur une vibe Marvel, tu vois.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est plus dans la vibe des classiques, mais pff, je sais pas, pour moi, il manquait quelque chose. Enfin, il manquait une volonté de faire un vrai film, quoi, en fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, en vrai, quand tu y réfléchis, dans tout, à part, enfin, moi, personnellement, à part Shang-Chi, tous les autres, je suis là... Ouais, bof.
Mais c'est ça le problème, hein. C'est pour ça que je disais qu'à la sortie du cinéma, on se disait on y retournera plus, c'est parce que ça fait plusieurs qu'à la fin, on en ressort au mieux avec un bof, au pire avec un « ouah, j'ai perdu du temps », quoi.
Ouais.
Voilà. Maintenant que ceci est extériorisé, hein, n'hésitez pas à venir m'attaquer dans les commentaires si vous avez adoré Ant-Man, on est là pour ça. Nous allons passer à...
Émilie est en train de chercher une transition.
Mais je n'en trouve aucune, donc on va parler de L'étrangleur de Boston.
Ok. Très bien. Donc, L'étrangleur de Boston, c'est un thriller qui est réalisé par Matt Ruskin et produit par Ridley Scott, qui est sorti sur la plateforme il y a quelques jours, hein, il me semble que c'est assez récent. je crois. Parce qu'en tout cas, je l'ai découvert sur la plateforme directement. J'en avais pas entendu parler avant.
Oui, ça fait
avant.
Quelques jours.
Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et en fait, ce film nous propulse dans le Boston des années 60 et il revient sur l'affaire de l'étrangleur de Boston et notamment, principalement, sur le duo de journalistes Loretta McLaughlin, je sais très mal prononcer, désolée Céline, et Jean Cole qui ont ébruité l'affaire. Donc ce duo de journalistes, elles sont incarnées par Keira Knightley et Carrie Coon, qui sont plutôt convaincantes, hein. J'ai bien aimé... Bon, j'ai jamais trouvé que Keira Knightley était une grande actrice, mais là, pour le rôle qu'on lui demandait de faire, elle était très bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'entre 1962 et 1964, à Boston, il y a eu 13 femmes âgées de 19 à 85 ans qui vivaient seules et qui ont été assassinées. Et à chaque fois, le même mode opératoire. Donc, elles sont retrouvées chez elles étranglées, avec, pour la plupart d'entre elles, un bas de nylon noué autour de leur cou. Aucune trace d'effraction et la plupart agressées sexuellement. Et donc Loretta, qui est une journaliste qui, pour l'instant, alors c'est vraiment marrant parce que dès qu'on est dans la première scène dans le journal, on voit que tous les hommes ils ont les affaires de crime et toutes les femmes c'est sur la mode, sur les régimes, et elle c'est art de vivre, et donc elle doit tester des grille-pains, par exemple. Bref. Et donc, elle en a un peu marre, et elle trouve que sa rédaction au journal est très passive devant certaines affaires, dont celle-là. Et elle va remarquer qu'il y a plusieurs points communs entre tous ces féminicides. Et donc, elle va se substituer un peu à la police, et va, avec l'aide d'une deuxième journaliste qui, elle, a un peu plus de galons déjà, mener l'enquête et écrire plusieurs articles sur cette histoire. Et donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça c'est vraiment produit, ces deux journalistes existent vraiment, et donc d'ailleurs à la toute fin au générique on voit des photos d'elles, ils expliquent un peu la fin, le après le film quoi, ce qui s'est passé pour elles, etc. Moi c'est vraiment le point fort du film, c'est ce duo féminin qui vont se faire respecter dans ce milieu qui est quand même très misogyne. On a deux femmes qui ont un caractère très trempé, qui sont confrontées au sexisme tout le temps dans leur dans l'époque, hein, les années 60 aux États-Unis, enfin dans le
Massachusetts.
C'est ça.
Massachusetts.
Et quoi?
J'ai dit mâche ta chaussette.
D'accord.
C'est encore un coup de Johan ou pas?
Non, ça non. C'est pas comme bien gauler coquine. Non, ça c'est...
Quoi? Mais... J'ai raté d'un gauler coquine.
Mais non, quand on avait parlé de Macaulay Culkin, l'acteur qui joue
dans...
Ah
oui, c'est vrai, c'est
Et moi
vrai,
je
vrai.
Dis que Johan l'appelle bien gauler coquine. Voilà.
Okay.
Bon, désolée pour cette intervention qui était nulle, hein, et qu'on pourra couper au montage.
Épisode 18
hein,
ans et plus, là.
Et donc, du coup, on va découvrir, en fait, l'impact de la presse sur cette affaire, d'une manière positive et négative. Alors, moi, je suis pas hyper convaincue du film. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait pas vraiment d'immersion dans l'enquête, il y avait pas vraiment de rebondissement et de suspense. Il fait pas du tout peur, hein, pour ceux qui se posent, celles et ceux qui se posent la question. C'est une affaire qui est pas vraiment résolue. Donc, j'ai lu un petit peu après, hein, du coup, ce qui s'était passé, parce que ça date dans les années 60, mais il y a eu des rebondissements en 2013, donc j'ai un peu lu après des choses sur l'enquête. Mais voilà, elle était pas, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et donc, j'ai trouvé que le schéma narratif était un peu confus à cause de ça. Disney Plus a pris un parti pris, pour raconter cette histoire et pour partir, dans une direction, on va dire, et amener une fin. Et du coup, je sais pas, ça m'a un peu perturbée, puis je comprenais pas tout, et on a l'impression d'avoir le tueur vite, mais en fait, c'est un peu bizarre. J'ai pas été très très convaincue, par l'histoire et par la fin. Je dirais pas que je me suis ennuyée devant, mais je trouve qu'il était un peu trop long, ils auraient pu le couper et faire quelque chose de plus simple sur la fin. À côté de ça, je trouve ça vachement bien que ça montre quand même ce duo de femmes qui dans un milieu pas facile et misogyne arrive à s'en sortir et sur cette sororité là. Donc je dirais pas que c'était catastrophique. Il était sans pas mal, mais je pense qu'il va vite être oubliable. Mais je conseille quand même de le regarder. Je pense qu'il tu passes un bon moment devant quoi.
Dans le genre, c'est un peu comme le film Le Zodiac qui a été réalisé par avec c'est qui l'a réalisé? Non, avec Jack Gyllenhaal et Robert Downey Jr. et d'autres acteurs, et donc qui parlent de l'histoire vraie.
Pourquoi
du
tu dis Downey Jr.
Quoi?
C'est Downey Jr. Pourquoi tu dis Downey Jr.?
JR, c'est l'acronyme de Junior.
Ouais, mais ça me perturbe. C'est comme si tu disais MR au lieu de dire monsieur, tu vois.
Bah, je sais pas, moi j'ai toujours dit JR, quoi. C'est comme ça qu'il est écrit la plupart du temps, quoi. Il n'est pas écrit Robert
oui,
Downey
non,
Jr.
Oui, on est d'accord, hein, mais bon, je sais pas, moi c'est... Enfin, soit...
Robert Downey Jr., donc
je ne juge pas.
qui raconte l'histoire vraie du tueur du Zodiac, qui signait tous ses meurtres avec des indices, mais des... Oh là là, je ne retrouve plus mes mots.
Des signes du Zodiac ?
Non, ouais, mais des trucs... Oui, mais avec des... des énigmes, voilà, avec les trucs du Zodiac, etc. Et c'est une affaire non résolue parce qu'on n'a jamais retrouvé le tueur. Et donc, bah, le film, il se termine un peu aussi comme ça, en eau de boudin, parce que, en fait, tu n'en sais pas plus, quoi. Et tu vois que pratiquement toute leur vie, les policiers recherchent le gars. Et en fait, tu sais pas... T'as des soubresauts comme ça tout le long, pendant plusieurs années, où on croit qu'on l'a retrouvé, et en fait, on le retrouve jamais. Et donc, quand t'as raconté ça, moi, ça m'a à fond fait penser à ça, parce qu'en plus, c'était aussi un tueur qui sévissait plus ou moins dans la même région, et avec un mode opératoire, et tout ça. Donc, c'est un très bon film, hein. Ouais, je le conseille, hein. C'est sur Netflix, je crois.
Mais là, de ce que j'ai compris un peu en regardant le film, parce que à la fin, je vous avoue que j'étais pas hyper concentrée parce que ça commençait à me saouler un petit peu. J'ai regardé du coup avant la fin la page Wikipédia de la vraie histoire pour voir ce qui s'était réellement passé. Et du coup, j'ai l'impression que dans Disney Plus, enfin, ils donnent une fin, tu vois, ils concluent, ils vont supposer que ça s'est passé comme ça. Et moi, en lisant la page Wikipédia, dans ma tête, je m'étais imaginé que ça s'était passé autrement. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait bugger. Et donc, j'étais peut-être un peu moins dedans sur la fin. Mais non, mais il y a une série aussi sur Netflix où c'est sur... je ne saurais plus trouver le nom, mais... une famille qui emménage dans une maison et reçoivent des lettres de menaces.
Ah oui, The Watcher, non ?
The Watcher. Et j'ai pas été jusqu'au bout parce que pareil, ils disent qu'à la fin, en fait, on sait pas qui fait ça. Donc, je me suis dit, je vais pas me taper 10 épisodes pour à la fin me dire, en fait... on sait toujours pas. Donc bon, non, là, c'est un peu différent. Il propose quelque chose, quand même. Voilà.
Bah, pas plus convaincu que ça, quoi, visiblement.
Non, vraiment sans plus. Tu vois, limite, j'ai préféré Yakuza Lover.
Je ne regarderai pas Yakuza Lover. Mais... je vais peut-être regarder autre chose que L'Étrangleur de Boston.
Non, mais ça serait bien qu'il y en ait au moins une... Ouais, si vous avez le temps de le regarder, parce que... c'est pas catastrophique, hein, tu vois. C'est plutôt pas mal. Et peut-être que j'étais trop fatiguée et je suis pas rentrée dedans, mais... j'aimerais bien avoir un deuxième avis, quoi.
Bon, les auditeurs, écoute, regardez ce film pour donner un deuxième avis à Charlie.
Il y a une mini histoire d'amour, puisque, non mais alors vraiment mini, hein, puisque en fait, donc Loretta, une femme qui travaille dans les années 60, un mari qui au début est très compréhensif et puis qui au bout d'un moment se dit, tu passes quand même beaucoup de temps au boulot, donc ça se passe pas très bien entre eux, voilà. En fait, ça va, c'est rien du tout sur une histoire, c'est pas du tout une histoire d'amour, mais ça va montrer aussi les difficultés d'une femme qui travaille avec sa vie de famille, quoi.
C'est un peu comme dans Le Sourire de Mona Lisa.
Qui
ça se passe aussi dans ces années-là, et t'as des filles qui... c'est Julia... T'as jamais vu Le Sourire de Mona Lisa ? Tu dois le regarder, t'adorerais. Avec Julia Roberts, et Kirsten Dunst, et Julia Stiles, vraiment plein d'actrices que j'adore.
Ah ouais ?
Et je crois qu'il est sur Netflix, mais pas sûr. Hein. Et en fait, en gros, c'est une professeure qui arrive dans une université pour apprendre... je crois que c'est une université, je pense. Et pour leur donner des cours d'art. Et donc, c'est vraiment au moment un peu de l'émancipation de la femme et tout. Et donc, t'as vraiment tout un panel de filles très différentes. La fille qui veut juste être une femme au foyer, épouser son mari, et voilà. Une autre qui a envie de découvrir la vie, une qui couche avec un prof. Enfin, vraiment, il y a plein d'histoires comme ça de femmes. Et c'est génial. Et puis, Julia Roberts, quoi. Vraiment, j'adore ce film.
Ah ouais.
Edwige, tu connais ?
Non.
C'est vraiment bien. Franchement, je le conseille. C'est un film très... pour les femmes, avec vraiment un esprit de sororité et tout, vraiment très bien.
Il n'y est pas sur Netflix.
Avec Maggie Gyllenhaal aussi et Jennifer Goodwin, enfin vraiment plein d'actrices sympas, quoi. Enfin bref.
Les avis sont pas dingues hein, sur...
Moi j'adore.
Allociné et tout.
Ouais, après les films sur les femmes, c'est jamais dingue. Hein. C'est jamais dingue les avis Allociné parce que c'est toujours des hommes qui commencent ce genre de trucs. On est d'accord. C'est vrai, les femmes n'ont pas beaucoup de place dans le monde du cinéma et dans le monde de la critique cinéma. Quand tu vas sur YouTube et que tu veux voir une critique cinéma, c'est que des mecs. Hein.
Oh, il y a une fille super, j'aurais trop aimé l'inviter un jour dans un épisode. J'aime bien, elle fait des... Elle fait des vidéos YouTube où elle donne des avis. Et elle est prof aussi dans la vie.
Okay.
Et j'aime beaucoup ses critiques. Je vous enverrai les vidéos. En parlant d'histoire d'amour, Clem, tu as regardé un deuxième contenu avec une histoire d'amour.
Ouais. Enfin, histoire d'amour, oui et non. Mais en gros, c'est le documentaire Fire of Love. C'est un docu National Geographic qui a été nommé aux Oscars et qui est sorti ici à l'été 2022. Alors, en fait, c'est basé sur une histoire d'amour, enfin, ouais, sur une histoire d'amour du couple de volcanologues Katia et Maurice Kraft. Et donc, en fait, ça parle de leur histoire d'amour. Enfin, c'est parce qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont la même passion. Et donc, on va les voir vivre leur passion ensemble, du début à la fin, avec des images d'archives vraiment mais époustouflantes. C'est vraiment magnifique. On voit des volcans, des lacs d'acide, et on voit le couple qui va braver vraiment 1000 dangers autour de cette passion commune qui est les volcans. Et alors, en plus, ce qui est bien, c'est que toutes ces images d'archives qui, à mon avis, au visionnage pour la réalisatrice et les monteurs, etc., ça a dû être très chiant parce que c'est vraiment des images d'archives pardon, très documentées et tout. Mais ça a été monté de manière tellement dynamique, avec des musiques qui sont vraiment top et judicieusement choisies, du genre, à un moment donné, on entend Dalida dans le truc. c'est génial, c'est vraiment judicieux, c'est super bien choisi, c'est intelligent et tout. Et on s'ennuie à aucun moment, parce que les images sont tellement belles. Et alors, le format, c'est un format un peu carré comme ça, donc ça donne un côté un peu vintage à l'ensemble, alors que le tout est au final très moderne parce que c'est bien monté et tout, et c'est passionnant, c'est fort, et enfin, moi je trouve que c'est un documentaire qui est pas du tout comme un autre. Et pour ceux qui sont un peu habitués des documentaires National Geographic et qui pourraient se dire ah ouais non c'est un peu chiant, ça n'a rien à voir avec un docu National Geographic classique. C'est vraiment 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 beau. Il y a des moments des zooms sur de la lave en fusion, du magma, enfin vraiment c'est beau. C'est l'histoire d'amour est intéressante, et tu dis que ces gens là en plus d'être passionnés l'un par l'autre, ils étaient passionnés par les volcans, et c'est beau quoi, c'est vraiment beau. Donc franchement je le conseille à tous, parce que ça va plaire à tout le monde. Et tous les gens à qui je l'ai conseillé ont adoré. Donc,
c'est à moi que tu parles quand tu dis qui n'aime pas les reportages nationaux.
Mais je sais bien que parfois ça peut être un peu rébarbatif, tu vois. Moi j'adore les documentaires, mais je sais bien qu'en général, bon, les gens sont là, ouais, un documentaire. Mais là, franchement, ça se regarde comme un film. Ça se regarde comme un film, c'est trop beau. Parce qu'en plus, on a toute l'histoire du début, de quand ils commencent un peu à se passionner par les volcans, jusqu'à la fin. Et il faut savoir que je vous spoil pas en vous disant ça parce que c'est, je crois que c'est dit dans le synopsis, enfin sur le résumé apéritif, on va dire du documentaire, c'est qu'ils vont décéder à cause d'un volcan, quoi. Il va y avoir une éruption volcanique et ils vont décéder à cause de ça. Et donc on suit vraiment toute leur histoire jusqu'à ce moment-là. Et donc c'est ça que c'est vraiment intéressant, parce que c'est monté comme un film, quoi. Donc vraiment, je vous conseille. Et
c'est triste.
Ouais, c'est très triste. Et c'est deux personnalités qui sont vraiment passionnantes, intéressantes, qui vivent pour ce qu'ils aiment, pour leur passion. Et du coup, ça fait plaisir à voir, quoi.
Ouais, faut que je le regarde.
Donc c'est une histoire d'amour entre un couple et une histoire d'amour avec des volcans.
Et il est sur le Disney Plus français.
Ouais. Ouais, ouais, je l'ai vu.
Il est directement sorti sur Disney Plus, en fait. C'était un documentaire, voilà.
Cool.
Ouais. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir une qualité pareille, qui en plus était nommée aux Oscars et tout. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'Oscar, parce que c'était mérité, c'était très très beau. En parlant de volcans, de chaleur, eh bien, on va passer avec le contenu suivant d'Emilie, qui va vous parler de strip-teaser.
C'est quoi ce truc?
C'est la musique dans Magic Mike.
Non, ça ressemblait à rien du tout.
Non, ça ressemblait pas vraiment.
J'ai cru que t'étais en train de grogner, quoi.
Non, mais vous voyez la musique dans Magic Mike quand il fait son striptease et qu'il fait un peu comme ça. Pas celle-là, dans Magic Mike, et qu'il fait comme ça. Enfin bon, bref.
Il y a personne qui fait ça.
Bref, c'est pas grave.
Pas de musique chelou dans mon contenu, mais bien des strippers à gogo. On va parler de Welcome to Chippendales, série qui est sortie. Alors je pensais qu'elle était hyper récente, mais en fait elle est quand même sortie en novembre 2022, donc j'ai juste pris mon temps pour la regarder, directement sur Disney+. Et c'est donc une série en 10 épisodes qui raconte l'histoire en fait du créateur des Chippendales. Donc Chippendales, pour ceux qui connaissent pas, c'était à l'origine une boîte, et c'est devenu maintenant vraiment une chaîne avec des spectacles qui s'exportent partout, de stripteaseurs masculins. Et donc ça a été créé en fait par un Indien qui a émigré aux États-Unis, qui s'appelle Shoman, qui se fait rebaptiser Steve parce qu'il a plus facile à réussir comme ça, tristement. Donc Steve Banerjee.
Alors, je me suis noté, venez pour les abdos saillants, restez pour l'intrigue et le suspense. Parce que, on va pas se mentir, la pub autour de Welcome to Chippendale, c'est venez admirer des abdos, tu vois. Mais, ils sont pas mal. Mais franchement, j'espère que Chou n'écoute pas cet épisode. Mais franchement, au-delà du côté, allez, au-delà du côté fort spectacle et de waouh, c'est des stripteaseurs, etc., la série est vraiment intéressante et en fait, il y a une intrigue, il y a de la magouille, il y a du meurtre, il y a des histoires d'amour, il y a tout. Et c'est passionnant parce que tu sais que c'est basé sur des faits réels dont on n'avait aucune idée. Il y a eu un bouquin apparemment là-dessus et donc la série est basée sur le bouquin. Mais donc bref, c'est l'histoire de ce gars, donc Steve Banerjee, c'est un mec. Typiquement, c'est un immigré qui n'a pas grand-chose et qui veut absolument réussir et vivre le rêve américain. Il veut vraiment être un entrepreneur. En fait, le gars, au début de la série, il te montre que son modèle, c'est Hugh Hefner, donc le gars de Playboy. Parce que bah, le mec, il a des costumes super chers, il a des belles filles à ses côtés, il a des montres très chères, etc. Et moi, ce que je trouvais fou, c'est quand tu regardes cette série, tu réalises que le mec, il a créé Chippendales parce que c'était une bonne idée business. Parce qu'effectivement, à l'époque, donc ça se situe dans les années 70, à l'époque, bah, le striptease masculin, ça n'existe pas. Mais en fait, ce mec aurait créé ça, ou il aurait créé une boîte qui vend des chaussettes, ou je ne sais quoi, c'était pareil pour lui, quoi. Il n'y avait pas un intérêt particulier pour le striptease, ou que sais-je. Lui, il voulait juste faire du business et être riche, quoi. Il se fait qu'il a trouvé cette idée-là. Et c'est super intéressant, parce que donc, il y a tous les sujets qui sont abordés autour de cette personne-là, de bah, la question du racisme, mais aussi la question de bah, voilà, ce mec recherche le succès, qu'est-ce que ça signifie pour lui le succès, quand il réussit, qu'il devient super riche, qu'il a sa villa, ses voitures de luxe et tout, est-ce qu'il est forcément plus heureux? Il y a toutes ces questions-là que j'ai trouvées super intéressantes, et puis ça se passe dans les années 70, ça se passe en pleine révolution sexuelle, et ça c'est super intéressant aussi, à l'époque forcément quand ils ont créé Chippendales, bah, ça choque. De voir des mecs qui se mettent à poil et des filles qui sont en train de crier, de leur mettre des billets dans le slip, bah, ça choque à l'époque. Je pense que ça choque un peu encore aujourd'hui, mais voilà. Non, Clem, elle est cliente de ça.
Mais... Non, ça choque plus.
Donc voilà, il y a... Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, c'est pas vrai. T'as vraiment envie de m'attirer des problèmes dans mon couple? Toi, tu veux que je divorce dans l'année ou quoi?
Non, c'est vraiment... Il y a énormément de sujets de société qui sont abordés là-dedans et je trouve ça fou que ça soit basé sur une histoire réelle, en fait, parce que le mec a vraiment une vie digne d'une série, c'est-à-dire on ne s'embête jamais là-dedans. Il y a un autre sujet que j'ai trouvé intéressant aussi, dont je voulais parler un peu, c'est que bah, ça parle de racisme, mais ce qui est intéressant, ça parle de racisme entre personnes racisées. C'est-à-dire que le Steve Banerjee, il est indien, il subit des moqueries, il subit des discriminations, il a difficile à réussir à cause de ça. Et en fait, lui-même va faire preuve de racisme par rapport à un de ses stripteaseurs qui est noir, en lui disant en gros, oui, bah tu comprends bien, je peux pas te mettre dans le calendrier parce qu'un homme noir, c'est pas vendeur, ça va faire mauvais genre, tu vois. C'est pas ma faute, hein, c'est la société qui est comme ça, mais bon, tu comprends bien que je peux pas te mettre en avant. Il y a toute cette intrigue-là qui est super intéressante. Enfin voilà, je vais pas tout vous dévoiler non plus, mais vraiment venez regarder, c'est pas du tout une série légère pour aller mater des beaux corps, c'est vraiment, il y a de tout, comme je disais, il y a de la romance, il y a du meurtre, il y a des histoires d'arnaque, il y a du suspense, c'est vraiment, c'est passionnant.
Ouais, tu l'as bien vendu là.
Ouais. Charline, la musique dont je parle, la musique de striptease dont je parle,
oh,
non, mais
avec.
Tu vas savoir de quoi je parle, dans LOL qui ressort, c'est quand Paul Mirabel fait son striptease.
Ah, ok, c'est voilà. Bon, je vois. Alors, on va pas dire que c'était une très bonne imitation, Clem. Je suis désolée, ouais. je ne peux pas...
C'est dur, hein, elle est dure à imiter, cette chanson.
Ah oui, je me tenterai même pas à ça. Hein. Ok. Contenu suivant, s'il vous plaît.
Alors, contenu suivant, est-ce que j'ai une bonne transition par rapport à du striptease? On va parler de Miley Cyrus.
Oh, tout de suite, du slut shaming, c'est parti.
Il y a quand même un petit lien. Moi, je me suis arrêtée à Breaking Ball, je suis désolée.
Ah ben, tu devrais écouter ce nouveau album, meilleur, tu sais, parce que franchement... Et donc, effectivement, on va parler de... Parce qu'elle aussi, elle est hot, finalement, Miley Cyrus, alors on va en parler. On va parler de son... Donc, d'un petit truc qui vient d'arriver sur Disney+, qui s'appelle Endless Summer Vacation... Backyard Session. Session, bah, bref, session. Backyard Session.
Session.
Alors, bah, il est sorti au mois de mars, donc ici, là, il y a quelques jours, et ça fait suite à son nouvel album, donc Endless Summer Vacation, sur lequel on entend un titre que vous connaissez tous, Flowers. Il est sur toutes les ondes en ce moment. Tout le monde l'entend. C'est pas possible que.
Je crois que je l'ai même pas entendu. Ou alors je l'ai entendu sans faire exprès, sans savoir que c'était ça.
Quoi? Mais si. I can buy myself flowers. Run my name in the sand.
En fait, j'allais le passer, mais Clem fait ça tellement bien.
Ça dit rien.
On dirait une musique de.
De Bruno Mars.
Ben oui, il a repris les paroles de Bruno Mars. Tu ne regardes pas mes stories, Charline. Je suis déçue. J'en ai parlé en story.
Je viens de comprendre, j'ai vu un TikTok là-dessus. Ouais. Il y a une meuf qui mettait le début.
Ouais,
et...
ouais, c'est ça. Et en fait, elle,
c'était hyper drôle.
Elle répond à la chanson de Bruno Mars parce que c'est la chanson que son ex, Liam Hemsworth, lui a dédiée, si tu veux. Enfin, a mis à leur mariage en disant que c'était la chanson qui les représentait, machin, etc. Et donc, elle, pour se faire une revenge song, un petit peu, elle a pris les paroles, elle y répond dans son titre, et elle fait ça dans la maison qui ressemble très très fort à la maison qu'ils avaient ensemble à Malibu, sur les hauteurs de Malibu et tout. Et dans le clip, elle est dans la maison, et elle a sorti le titre le jour de l'anniversaire de Liam Hemsworth.
Mais c'est génial,
elle
comme
est
vengeance.
Excellente, c'est une queen.
Mais il faut que je l'aille. C'est trop bien, il faut que j'aille écouter.
Et il l'attaque en justice, je crois, en plus, pour ça.
Quel con.
Ouais.
Et bah, ça, c'est une vraie vengeance.
Ouais, c'est génial.
Shakira, elle devrait prendre exemple.
Ouais. Ah, c'est mille fois
mieux. C'est largement mieux, ouais.
Les gens comparaient Shakira et Miley, mais Miley, elle a tué le game avec le
mais
game
grave.
Avec cette chanson.
Et puis, elle le fait de manière intelligente et pas en slut-shaming la meuf.
Exactement, exactement.
La nouvelle meuf de son mec.
C'est
quoi.
Super intelligent.
Ah, j'adore, je vais aller écouter.
Mais tu l'as pas entendu? C'est pas possible.
J'entends des musiques qui passent, mais je percute pas à chaque fois de qui chante, de voilà quoi.
Bah donc c'est cette chanson, et vraiment elle a un succès qui est mais mille fois mérité. Vraiment, je suis trop contente pour elle. Elle a partout dans le monde, elle explose, elle est en tête des charts partout dans le monde. Et donc voilà, elle a une petite session de un mini concert, on va dire, qui fait suite à la sortie de son nouvel album, qui est entre parenthèses excellent, écoutez-le. Et donc dans cette je sais pas comment appeler ça, mais donc ce mini film, cette mini émission, enfin bref, ce mini concert, elle interprète évidemment les chansons de son nouvel album en live à l'arrière d'une maison, et elle se confie en même temps sur elle et sur sa démarche créative qui l'a amenée à écrire l'album. Alors moi, j'ai trouvé ça très très chouette. C'est pas trop long parce que ça dure une demi-heure. C'est Miley, elle est, moi je l'adore cette fille, je la trouve hypnotisante, elle a une voix mais merveilleuse, franchement. Qu'est-ce qu'elle chante bien. Qu'elle chante des trucs un peu plus country, et qu'elle chante Jolene de Dolly Parton, ou bien qu'elle chante ses chansons, je trouve qu'elle est... elle est trop bien, cette fille. Et le nouvel album, il est vraiment génial. Alors, moi, je le conseille à tous ceux qui aiment, tous ceux qui aimaient, et tous ceux qui aimeront encore Miley.
C'est magnifique.
Et en plus, elle fait une super surprise. Elle interprète un de ses anciens tubes que tout le monde connaît. Et voilà, j'ai envie de dire que ce petit mini-concert sur Disney+, signe le retour de Miley chez Disney. Et ça, c'est trop bien. Voilà.
J'ai jamais été une grande fan, mais tu m'as quand même vendu.
Oh là là.
Toi aussi, tu l'aimes bien, Edwige.
Bah, moi, c'était mon crush à 12-13 ans.
Oh, génial.
J'avais des sentiments pour cette fille.
Non, mais elle est incroyable, franchement.
Ouais.
Moi, je l'adore. Et c'est ce petit... En plus, c'est bien parce que tu peux le regarder en repassant ou en faisant d'autres trucs ou en corrigeant ou en pliant du linge ou que sais-je. Et franchement... non, moi, c'est parce que c'est ce que je fais, donc voilà. Mais c'est...
La vaisselle.
Ouais, moi, ou la vaisselle. Et franchement, c'est... Voilà. Elle a une voix très rauque, comme ça, très sexy. Enfin, je l'adore, cette fille. Je pourrais virer ma cutie pour elle.
Je suis pas forcément fan de la personne en soi, mais c'est vrai qu'elle a une voix géniale.
Ah ouais, non. Mais franchement, écoute ses derniers albums, parce que celui-là, il est vraiment top. Et alors, un que j'avais adoré aussi, c'était Malibu, justement, où il y avait une vibe très country, très good vibe, très solaire. Et cet album-là, il est magnifique.
Mais ça devient un genre qu'ils font sur Disney+,
ouais.
De faire des sessions-concerts comme ça, je crois qu'il y en a une. Bah, il y a le dernier concert d'Elton John qui est dispo sur Disney+, ils avaient aussi fait un genre de backyard session pour Olivia Rodrigo. Je me demande s'il n'y a pas un truc de Taylor Swift aussi.
Ah oui, si, ouais. Enfin,
ça, ouais, ça se fait de plus en plus sur Disney+. Bon, j'avoue, moi, c'est pas forcément des trucs que je regarde parce que je me mets pas à Disney+ en fond. En général, je regarde vraiment quelque chose. Mais c'est vrai que le concert d'Elton John, je me le suis gardé dans un coin parce que ça doit être pas mal.
Mais moi, je suis pas... Enfin, je regarde pas pas spécialement ce truc-là, mais comme c'était Miley et que franchement je l'adore, voilà, moi c'est mon petit plaisir coupable, Miley. Et quand on me demande qu'est-ce que t'aimes bien comme chanteuse et tout, je dis bah Miley Cyrus, et les gens sont là, ah ouais Miley, je dis ouais mais attends Miley, c'est pas que Hannah Montana, c'est pas que Hannah Montana. Elle est incroyable. Ah oui,
on rappelle qu'il y a le concert de BTS aussi qui est disponible sur Disney+. Là,
c'est
vois,
vrai, hein, je l'ai même pas vu.
Ouais, il y a BTS Permission to Dance, il y a Billie Eilish à Los Angeles.
Mais ça, c'est un documentaire.
Il y a pas mal de concerts en fait.
Bah, Billie Eilish, c'est un documentaire, je crois. En partie.
Bah non, là, je vois un concert unique et puis tu as le making-of.
Ok.
Tu as un truc sur Paul McCartney. Enfin, y a... Ouais, côté musique, il y a pas mal de choses en fait.
Ouais, mais Paul McCartney, c'est pas Cédric qui l'avait conseillé. Ou alors c'est Elvire, je sais plus.
Il y a The Beatles Get Back, le documentaire, ouais, mais ça, là c'est encore autre chose, c'est une interview de Paul McCartney.
Ouais, ça c'était Cédric, je crois, qui nous l'avait conseillé.
Enfin voilà, il y a, dans le genre concert, il y a des choses à faire.
Quand on parle de Miley qui est extraordinaire, on va passer au prochain contenu de Charline, Extraordinary.
Oh c'est beau,
t'as
c'est
vu
beau.
Ça
je m'incline.
Alors effectivement, Extraordinary, c'est une série télévisée britannique créée par Emma Moran qui est sortie en janvier 2023 sur Hulu aux USA et sur des plus ailleurs. Alors l'actrice principale est irlandaise et si je me trompe pas dans la prononciation, elle s'appelle Muired Tyers. Quelque chose comme ça. Je suis désolée. Là.
On ne saurait pas te corriger de toute
non.
façon.
Non, voilà.
Dis ce que tu veux.
Même Céline, elle ne pourra pas nous corriger.
J'ai vraiment checké comment on prononçait son nom et il y avait écrit en langage phonétique, ça tenait ça. Alors, il y a une saison de 8 épisodes de 30 minutes chacun et la saison 2 est confirmée, et heureusement parce que la fin se termine sur un cliffhanger, on a envie de voir ce qui se passe après. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans et c'est très drôle parce que je sais plus à qui j'en ai parlé et je racontais le début de la série, enfin le pitch et tout, et quand je le racontais ça avait l'air génial et moi j'étais pas rentrée dedans, j'allais dire ouais c'est bof, et en fait j'ai fini la saison quand même parce que je me suis un peu forcée et au final à la fin je me suis dit non en fait j'ai quand même bien aimé, c'était quand même cool. Donc c'est en gros l'histoire, on est dans un monde un peu imaginaire, enfin imaginaire, c'est un peu de la science-fiction entre guillemets, même si c'est jamais vraiment trop expliqué, enfin on est à Londres, et tous les gens à partir de 18 ans ont un pouvoir. Alors ça peut être un pouvoir vachement cool et pratique, genre il y en a qui volent, ça c'est stylé, et ça peut être un pouvoir complètement décalé, qui ne sert absolument à rien, genre tu lèves la main et t'as des poissons qui sont aspirés par ta main, tu vois. Donc en gros, voilà, ils ont tous des pouvoirs plus ou moins chelous, et sauf une, donc notre héroïne principale, qui elle a 25 ans, donc ça commence à dater, et elle, enfin dater, si elle est périmée pour Leonardo DiCaprio, donc on peut dire qu'elle est un peu vieille, hein. Mais en gros...
Ah
voilà, elle
non, c'est pas
ans,
vrai, parce que pour le moment, apparemment, il sortira avec une fille de 28 ans, qui est belge en plus, qui vient de Courtrai.
Jure.
Ouais. C'est ce que j'ai lu dans la presse People. Hein.
Clem les potins.
Donc, il aurait brisé la chaîne des moins de 25, des plus de 25 ans.
Et un jour, il va passer aux femmes de son âge ou de 10 ans de moins seulement.
Il va faire comme George Clooney, il va papillonner pendant un moment et puis à un moment, il va se dire bon, maintenant, il est temps de me marier et de faire des gosses et voilà, il le fera. Apparemment, il a une mère assez castratrice, enfin qui est très, qui l'accapare beaucoup quoi. Leonardo DiCaprio.
D'accord.
Voilà. D'ailleurs, elle l'accompagne à presque tous les tapis rouges et tout, sa mère. Hein.
Mais c'est peut-être lui qui veut aussi. Hein.
Ah oui, je pense que c'est une relation consentie. Enfin, consentie, voilà. Vous comprenez, quoi. Il accepte que sa mère soit, fasse aussi... Enfin, aussi fort partie de sa vie et que, voilà, c'est son petit bébé, apparemment. Elle le couvre beaucoup et, voilà. Et lui, il aime ça.
Ce serait mignon si, du coup, il ne sortait pas avec des femmes aussi jeunes.
C'est peut-être pour ça. Il a sans doute des momies choux, hein, vu... Oui,
ouais.
Bref.
Enfin bref, du coup voilà, elle a 7 ans de plus que la date où elle aurait dû avoir ses pouvoirs et elle a toujours pas de pouvoir.
Et, c'est Mirabelle en fait.
Ouais, ça fait un peu penser à ça. Sauf qu'elle, elle le vit moins bien que Mirabelle, tu vois qu'elle est pas très bien et puis alors vraiment, elle a un taf un peu de merde, elle galère dans ses histoires d'amour, enfin voilà, c'est un peu la, entre guillemets, la loseuse quoi. Et du coup, c'est vraiment une série très feel good, complètement décalée, un humour british qui est parfois un peu cru, hein, ça parle quand même pas mal de sexe. Ouais, je suis dans un thème aujourd'hui.
On est toutes dans un thème aujourd'hui, hein, avec Chip and Dale, tout ce que tu veux. C'est l'épisode un peu hot de la saison.
Et en fait, ce que j'ai bien aimé quand même dans cette série, c'est qu'on a quand même des personnages qui sont normaux. Il n'y a pas de beaux gosses ou de belles gosses, ils ont tous un physique normal, en fait, vraiment classique, avec des boutons d'acné, avec les cheveux des frisottis, enfin vraiment des personnages très lambda. On a des personnages féminins qui sont hyper bien écrits, et bah c'est une réalisatrice, hein, donc ça veut aussi tout dire, hein, c'est souvent le cas quand on a une femme à la direction. Et on a voilà les relations avec les uns avec les autres, et j'ai trouvé qu'au final, au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce qu'en fait, l'héroïne, il se passe que de la merde, enfin, vraiment, mais clairement, elle est dans des situations où à chaque fois... La pauvre, c'est hyper malaisant, et du coup, moi, j'étais mal à l'aise aussi avec elle, quoi. Et donc, j'ai eu du mal au début à être dedans, parce que j'étais un peu gênée, je sais pas, moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Et puis, au final, au bout d'un moment, tu te détaches, et c'est juste drôle. Enfin, après, c'est juste, c'est moi aussi, hein. Je pense qu'il y en a qui se détachent dès le début. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez original, très feel good, vu la saison, la fin de la saison 1, j'ai quand même hâte de voir la suite. Et je le recommande parce que finalement, bah, ça dure que 4 heures si on regarde tout d'affilée, quoi.
Ouais, je l'ai vu sur ma page d'accueil, je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Donc je pense qu'il va rentrer dans ma liste de 150 000 contenus à voir. Faudrait qu'on puisse faire un ordre des priorités dans ta liste Disney+, tu vois.
Grave.
On va mettre à voir tout de suite, à voir mais un jour quand j'ai la flemme.
Vas-y, fais une page Notion où tu mets les visionnages de chacune et on met des catégories.
Oh, mais j'ai déjà fait une page Notion pour suivre mes séries, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne l'utilise plus trop. Mais non, je vais la noter. Il se fout de moi parce qu'à chaque fois qu'on décide de regarder un film, j'y viens, on va regarder dans ma liste. Il me fait, arrête, ta liste, c'est la même depuis 1000 ans. J'ai déjà vu ta liste, c'est toujours la même, c'est toujours les mêmes films qui sont dedans. Et à chaque fois que je repasse devant, je fais, une autre fois.
Ouais, je suis un peu pareil.
Ah, mais attends, il y a une actrice de Sex Education dedans.
Oui. Je sais plus son prénom ni son nom.
Celle qui joue Ola.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Bon, on la voit qu'à un seul épisode.
C'est normal qu'il y ait un personnage qui s'appelle Échacule ?
Oui.
Parce que je viens de voir ça dans les résumés, ça m'intrigue.
Il y a un des personnages, en fait, son don, c'était se transformer en chat. Et en fait, ils l'ont découvert quand il était chat. Et quand il s'est retransformé en humain, il a totalement oublié sa vie d'avant parce qu'il est resté chat trop longtemps. Et ouais, ils l'ont surnommé Échacule. Mais oui, c'est pour vous montrer un peu l'humour british décalé, quoi, dont je vous parlais, ça colle bien.
D'accord.
Voilà.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode zapping vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via nos réseaux sociaux. On vous mettra toutes les infos dans la description de l'épisode. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode consacré au remake live action de nos classiques Disney préférés, pour un petit épisode top ou flop comme on en a déjà fait. Je pense qu'il y aura du débat. Et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+.
Ciao.
Salut.
I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mountain.